écoutez le Libre Journal des Amitiés Françaises, dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie le dimanche 25 juin 2023 de 18h à 21h et réalisé par Virginie. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous poursuivons cette émission donc, en abordant la deuxième partie. Bienvenue tout d'abord aux éditeurs qui nous rejoignent. Et puis, je rappelle que Marie-Hélène est au standard et qu'elle sera très heureuse de prendre tous vos messages et vos questions que nous proposons, que nous transmettrons donc à notre invité ce soir. Alors, nous allons complètement changer de sujet puisque nous allons parler de la Palestine. La Palestine qui attire d'ailleurs, malheureusement, parce que c'est pour des raisons dramatiques, à nouveau notre attention. Les affrontements se multiplient actuellement avec de très nombreuses victimes, notamment depuis que Netanyahou et ses alliés religieux orthodoxes ont gagné les élections. Alors, il y a les tirs de roquettes de Gaza sur le territoire israélien auxquels répondent les missiles israéliens. Il y a différents attentats qui sont réalisés par des Palestiniens, soit en Cisjordanie sur des positions de l'armée israélienne ou contre des lieux de colonisation, soit sur le territoire d'Israël proprement dit, et ces attentats entraînent des réactions de la part de l'armée israélienne en territoire cisjordanien avec de très nombreuses victimes. Il y a la colonisation qui, suite aux élections, reprend avec les implantations juives en Cisjordanie qui se développent à nouveau. Parallèlement, Israël négocie de nombreux accords avec ses voisins arabes et les Palestiniens semblent maintenant très isolés, bien dans leur désir d'arriver à un État réellement indépendant, et ça, ce désir, ce souhait, cet objectif, eh bien, n'a jamais semblé aussi éloigné, aussi inaccessible. La situation pour eux, la situation interne aussi des Palestiniens semble dans une impasse. Je rappelle qu'il n'y a pas eu d'élection en Palestine depuis celle de 2006, hein, qui avait vu la victoire du Hamas contre le Fatah. Nous allons bien sûr en parler ce soir. Et l'OLP, le Fatah, semble décrédibilisé, notamment auprès de la jeunesse palestinienne. C'est certainement l'une des raisons pour lesquelles elle se révolte actuellement et qu'elle souhaite en découdre avec donc les forces israéliennes qui interviennent donc régulièrement en Cisjordanie au prix de nombreuses victimes. Le Fatah gouverne en Cisjordanie, le Hamas, lui, gouverne à Gaza, Hamas qui est mis au banc en quelque sorte de l'humanité pour cause de charia et pour cause de terrorisme. Un livre intéressant vient d'être publié, un livre en quelque sorte qui nous présente le point de vue arabe, le point de vue palestinien, un point de vue en quelque sorte de l'autre côté de la colline. Eh bien, ce livre nous permet, c'est l'occasion en tout cas, de faire le point sur la situation en Palestine, en Cisjordanie et à Gaza. Ce livre est écrit par un arabe, Daoud Abdullah, et qui est l'histoire de la politique étrangère du Hamas. Il a été traduit et préfacé par Christophe Oberlin et est publié aux éditions Éric Bonnier. Alors Christophe Oberlin, vous le connaissez certainement, chers auditeurs, puisque c'est un de nos invités réguliers qui vient nous parler de la situation en Palestine, parce que Christophe Oberlin est vraiment un témoin très, très direct de cette situation. Il est chirurgien, professeur de médecine et familier de Gaza, où il se rend plusieurs fois par an, à la fois pour opérer dans les hôpitaux, mais aussi pour former le corps médical local. Alors certes, ce livre de Daoud Dalla, Christophe Oberlin va nous présenter, qui est son auteur, c'est un point de vue qui est un point de vue proche des Palestiniens, de ceux des Palestiniens, mais son livre est vraiment intéressant et nous permet de mieux comprendre la situation et les souhaits des Palestiniens, tout en évoquant le Hamas, la politique du Hamas, et il nous permet aussi de mieux comprendre ce qu'est le Hamas, qui est un acteur incontournable de la Palestine en 2023. Il ne pourra pas y avoir de paix en Palestine sans le Hamas. Nous allons donc évoquer ce soir, il y aura deux parties à cette émission. Une première partie sur la situation en Palestine actuellement, Gaza et la Cisjordanie, avec le déchaînement de violence qui ne semble pas s'arrêter, même qui s'accroît. Nous ferons aussi le point avec notre invité, donc Christophe Oberlin, sur aussi la plainte à la Cour pénale internationale pour crimes de guerre d'Israël en Palestine. Il était venu il y a 2 ans, je crois, nous évoquer ce thème. Nous ferons un point aussi là-dessus. Et la deuxième partie d'émission, eh bien, sera consacrée plus particulièrement à Gaza, au Hamas, à travers ce livre de Daoud Abdallah sur l'histoire de la politique étrangère du Hamas. Ce livre va être compris en fait comme un éclairage sur ce qu'est le Hamas, sur ses objectifs et sur les méthodes qu'il utilise pour atteindre effectivement ses objectifs, l'objectif principal étant la libération complète de la Palestine. Alors Christophe Oberlin, bonsoir.
Bonsoir Thierry Delcourt, merci de cette nouvelle invitation.
Et ben, nous sommes heureux de vous recevoir à nouveau. au micro. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes chirurgien, professeur de médecine. Donc vous vous rendez régulièrement à Gaza pour opérer et former les chirurgiens. Vous avez écrit de nombreux livres hein, sur cette Palestine et plus particulièrement sur Gaza. Le premier pour lequel nous vous avions reçu, c'est Chrétien de Gaza. Chrétien de Gaza que vous avez publié en 2017 et qui vous avait valu le prix littéraire de l'œuvre d'Orient. Donc en 2018, je le précise parce que, bien entendu, vous avez des positions, vous défendez les Palestiniens, vous défendez le droit à l'indépendance des Palestiniens. Vous êtes un avocat de la situation dramatique des Palestiniens, il faut le dire, dans Gaza. Mais en aucun cas, on ne peut vous accuser d'antisémitisme. Et si ça avait été le cas, vous n'auriez jamais reçu le prix de l'œuvre d'Orient. Alors c'est ce qui m'avait attiré mon regard, ma curiosité. C'est ce prix-là et ce qui avait valu cette première émission avec vous. Et puis, vous avez publié d'autres livres qui nous ont valu aussi de nous retrouver autour de ce micro. Plus particulièrement, toujours chez Éric Bonnier en 2020, « Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale ». L'échange, le soldat chalit et les Palestiniens. Et puis, je précise aussi, les chemins de la Cour, les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale, ça c'était en 2014. Donc c'est une longue, longue question qui vous intéresse depuis effectivement nombreuses années. Alors la première question, Christophe Oberlin, que je souhaiterais vous poser, c'est bien sûr pourquoi s'intéresser au Hamas et pourquoi plus particulièrement à ce livre, qui est un livre quand même, c'est assez précis, hein, c'est l'histoire de la politique étrangère du Hamas.
Alors écoutez, le Hamas, c'est certes un parti politique, mais c'est surtout aujourd'hui la base électorale, c'est 50% de la population. Donc c'est un mouvement qui vient du sol, si vous voulez, qui vient de la population. Et donc il ne s'agit pas de critiquer, de dissoudre le Hamas, pour reprendre une expression très d'actualité. On ne dissout pas le peuple, vous voyez. C'est un mouvement, et ce mouvement représente la moitié de la population, en gros. Encore qu'il soit difficile de donner des chiffres très précis en l'absence de sondages, néanmoins le meilleur signe révélateur, c'est sans doute que des élections qui sont réclamées par tous les partis politiques palestiniens confondus, que ce soit le Hamas, le Fatah ou le FPLP, les principaux partis, eh bien ces élections sont refusées par les Occidentaux, par Israël, par les Américains, par l'Union européenne, tout simplement parce qu'ils ont peur que le Hamas remporte ces élections. Donc quand on parle Hamas, il ne faut pas parler des personnes, il faut parler de la moitié de la population palestinienne et s'interroger pour savoir pourquoi des gens qui sont comme nous, des gens extrêmement différents, eh bien, s'accordent pour soutenir ce mouvement de libération transformé en parti politique.
Et pourquoi s'intéresser plus particulièrement à ce livre sur la politique étrangère du Hamas ?
Alors écoutez, comme vous l'avez dit, j'ai écrit un certain nombre de livres avec, disons, une certaine cohérence en principe. J'ai commencé parce que je n'y connaissais rien. Je suis allé 50 fois à Gaza depuis maintenant 21 ans, donc 3 fois par an. Donc je suis sur le terrain, on peut le dire. J'ai commencé par une biographie d'un Palestinien. Après, j'ai traduit une histoire de la Palestine qui montrait que c'est les racines historiques. Eh bien, c'est pas un siècle de guerre et de lutte anti-sioniste. C'est sur toutes les parties de la planète, il y a des racines historiques qui imprègnent encore aujourd'hui les gens qui habitent là-bas. Et puis, j'ai donné la parole à toute une série de personnages à travers des chroniques. Et je me suis intéressé à deux événements fondamentaux dans l'histoire récente du mouvement islamiste palestinien qui sont peu connus. Le premier, qui est pratiquement inconnu, c'est la déportation en 1992 de 400 Palestiniens. C'est l'objet d'un chapitre entier dans le livre de Daoud Abdullah. Alors, sur Daoud Abdullah, je voudrais apporter une précision. Il a effectivement un nom arabe. Mais il n'est pas d'origine arabe. Il est né à Grenade. Il a été très, très marqué, étant jeune, par les mouvements contre la ségrégation, les mouvements d'émancipation des Afro-Américains. Donc très très marqué, et il s'intéresse à tous les mouvements d'émancipation. Et c'est un chercheur qui a pignon sur rue, puisque c'est lui qui dirige, il est britannique, il habite à Londres, c'est lui qui dirige maintenant depuis 10 ans le principal média internet sur le Moyen-Orient, enfin l'un des principaux, qui est le Middle East Monitor. Donc oui, c'est un chercheur extrêmement sérieux.
Oui, c'est un chercheur très sérieux, c'est ce que, effectivement... je souhaitais que vous précisiez, parce qu'il est docteur, je crois, aussi, et un docteur reconnu. Enfin, il publie régulièrement, dont ce livre, Histoire de la politique étrangère du Hamas. Comment avez-vous été amené à découvrir ce livre ?
Bah, j'ai été amené parce que j'en ai vu une publicité, je l'ai lu, et j'ai été frappé par l'extrême clarté de ce livre. Les livres des chercheurs ne sont pas toujours lisibles par tout le monde. Et en particulier le sien est lisible par tout le monde. C'est-à-dire qu'il est parfaitement clair, il est appuyé sur 600 références bibliographiques, c'est du sérieux, mais en même temps on peut comprendre. Et c'est surtout le livre le plus complet parce qu'il a adopté un plan qui n'est pas simplement un plan chronologique, l'enchaînement de faits, mais il consacre des chapitres particuliers à des sujets que très peu de gens connaissent, c'est-à-dire par exemple les rapports du Hamas avec la Chine, avec la Russie, avec l'Inde, toutes choses qui ne semblent pas évidentes a priori. Et donc c'est cette analyse très profonde qui m'a passionné, qui m'a décidé à faire la traduction.
Alors, quelle est son indépendance sur le sujet ? Parce que c'est quand même, quand on lit son livre, effectivement, on sent qu'il est quand même proche du sujet, qu'il développe, C'est un partisan quand même des Palestiniens, c'est clair, on ne peut pas dire le contraire.
C'est clair.
Et du coup, la question, c'est quelle est sa fiabilité ? Est-ce que c'est un livre de parti pris ou ça vous est paru un livre, au contraire, très argumenté ?
Ah ben, c'est un livre absolument parfaitement argumenté, il faut le lire pour ça. Alors, vous savez, concernant le parti pris, je crois que c'est Robert Capa qui disait « Pour bien traiter un sujet, il faut avoir une certaine sympathie pour ce sujet ». Bon. Ce n'est pas forcément une règle absolue. Mais lisez ma préface, qui était un petit peu méchante pour les autres ouvrages qui ont été écrits sur le sujet, en ce sens qu'à quelques exceptions près, eh bien, les ouvrages que l'on peut lire en français sont des ouvrages à charge. C'est-à-dire que ce sont des chercheurs et des chercheuses qui travaillent dans de grands instituts et qui publient à charge, et avec un manque d'approche du terrain qui fait qu'il y a souvent beaucoup d'erreurs. Moi, j'ai apprécié le livre de Daoud Abdullah, car il repose sur beaucoup d'interviews longues, pas des petites phrases tirées d'articles de presse où il y a souvent des erreurs chronologiques. Donc, c'est un livre très clair, avec une logique qui est la logique de la politique étrangère du mouvement. Et si on en prend quelques exemples tout à l'heure, vous verrez à quel point il y a une logique dès le départ. Ce n'est pas un mouvement qui navigue à gauche, à droite, avec des grands retournements, c'est tout à fait le contraire.
Alors je vous propose dans un premier temps que vous évoquiez la situation en Palestine, en Cisjordanie et puis à Gaza. Si vous le voulez bien, j'aimerais lire quelques lignes d'un article du Figaro, du vendredi 23 juin, vous voyez, c'est très très récent, qui est écrit par l'envoyé spécial du Figaro en Israël et en Palestine, Guillaume de Dieuleveux. Il parle d'une expédition de colons armés sur Turmus Aya, qui est un village palestinien de Cisjordanie, qui a été attaqué en plein jour par ses voisins israéliens. Les voisins israéliens, c'est une colonie, hein. Il faut le préciser. Voici ce qui est écrit. C'est quelques lignes, ça va prendre 2-3 minutes, mais ça résume bien la situation en Palestine actuellement. Le village de Turmus Aya a la réputation d'être un des plus coquets de Cisjordanie. La plupart de ces maisons ont été construites par des Palestiniens émigrés aux États-Unis, où ils sont plutôt réussis dans les affaires. Beaucoup ont la citoyenneté américaine, tout comme leurs enfants qui grandissent en Amérique. Ils ne reviennent en Cisjordanie qu'en été, pour profiter de leur grande maison. Mercredi, Turmus Aya a été le théâtre d'une descente de colons au cours de laquelle un rare degré de violence a été franchi. Venus par centaines des implantations voisines de Shiloh et Eli, ces colons ont attaqué en plein jour, à une heure où la plupart des hommes du village étaient partis travailler au cri de « mort aux Arabes ». Ils s'en sont pris à des maisons occupées par des femmes et des enfants, cassant les fenêtres à coups de pierre, répandant de l'essence, allumant des bombes incendiaires. D'après les témoins sur place, l'assaut avait été méthodiquement planifié à l'aide de drones. Beaucoup de colons étaient armés de fusils d'assaut M16 et ils en auraient fait usage en direction de civils désarmés. Ils voulaient nous montrer qu'ils étaient les plus forts et qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient, explique l'un d'eux. Au terme des violences, le bilan était d'un mort et d'une douzaine de blessés, dont un grave, entre 15 et 30 maisons et une soixantaine de voitures brûlées. Cette attaque est survenue après plusieurs journées de chaos en Cisjordanie. Lundi, une opération de l'armée israélienne dans la région de Jenin, au nord de ce territoire occupé par Israël depuis 1967, est heurtée à une résistance inaccoutumée. L'armée n'a pu reprendre le contrôle de la situation qu'à l'aide d'hélicoptères de combat, ce qui n'était pas arrivé depuis la fin de la seconde Intifada au début des années 2000. Le lendemain, deux assaillants palestiniens, probablement des militants du Hamas, ont attaqué des civils israéliens dans une station essence près de la colonie israélienne d'Eli, faisant 4 morts et 4 blessés avant d'être eux-mêmes abattus. La plupart de leurs victimes habitaient les colonies israéliennes avoisinantes. Leur mort a déclenché une série de vengeances de la part des colons israéliens. Champs brûlés, maisons et voitures caillassées. Mercredi, loin de Jenin, un missile tiré depuis un drone israélien a tué les 3 occupants d'une voiture présentée par Israël comme une cellule terroriste. Ce type d'opération n'avait pas été réalisé depuis 2006, etc. etc. C'est ce que décrit ce journaliste, grand reporter du Figaro, dans cette région qu'on ne peut pas reprocher de parti pris dans celui qu'il décrit. On a l'impression, Christophe Oberlin, que la situation en Cisjordanie se dégrade de manière considérable, et ça dans l'indifférence, alors qu'en même temps, Israël signe des accords de coopération avec de nombreux pays arabes de la région. Qu'en est-il actuellement de la situation en Palestine? Et dans cette configuration, dans cette situation, il semble que la paix et l'indépendance, qui étaient quand même le but des accords d'Oslo, ça sent vraiment inatteignable. Qu'en pensez-vous ?
Alors, écoutez, il y a de nombreuses questions dans votre question. Bien entendu, tout cela est dramatique, d'accord. Il n'empêche que, quand vous disiez dans la plus grande indifférence, eh bien, l'article que vous avez lu, eh bien, le témoin que ce n'est pas dans la plus grande indifférence. Et je ne suis pas un observateur des médias. Mais on peut observer que beaucoup de médias qui traditionnellement penchaient très nettement du côté israélien, aujourd'hui, devant ce déchaînement de violences racistes, sont mis devant le fait accompli, d'une certaine façon.
Pardonnez-moi, mais en matière d'indifférence, effectivement, il y a cet article, mais je pensais à l'indifférence des décideurs politiques.
Non, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est déjà pas mal d'avoir des articles comme ça, et on en retrouve dans toute la littérature, quel que soit son positionnement politique. Et aussi dur que ça puisse paraître, mais l'un de mes amis pro-palestiniens de toujours me disait finalement ces événements, ce gouvernement israélien raciste, c'est une sorte de bénédiction, tout simplement parce que enfin ils sont dévoilés. Vous avez dit tout à l'heure, mais ce n'est pas un reproche, hein, Thierry Delcourt, la colonisation reprend. La colonisation, vous le savez, n'a jamais cessé, et en particulier sous les gouvernements de gauche, entre guillemets, israéliens, c'est là que le plus grand nombre de colonies se sont installées. Donc ce n'est pas une reprise, c'est un mouvement continu depuis les accords d'Oslo, c'est-à-dire qu'Oslo n'a pas été respecté dès le premier jour par la partie israélienne. Vous avez prononcé quelques mots aussi, et là encore, c'est pas un reproche, c'est amical ce que je vais vous dire, mais nous restons marqués par des mots que l'on utilise, qui nous semblent des mots détachés de toute connotation de prise de parti. Il ne faut pas oublier que le Hamas est un mouvement de libération nationale. Et dans le cadre de ces mouvements de libération nationaux, le statut de la Cour pénale internationale, les règles du droit international, autorisent la résistance armée. Autrement dit, une attaque en territoire occupé ne peut pas être qualifiée d'attentat. On parle d'attentats, mais ce ne sont pas les attentats. Ce sont des attaques qui parfois se font contre des civils, mais ce sont des ce sont pas des attentats. La question du terrorisme aussi. Le statut de la Cour pénale internationale ne comporte nulle part le mot terrorisme, parce qu'il n'y a qu'en France qu'on fasse des lois antiterroristes. J'exagère un petit peu. Mais le terrorisme n'est pas un mot qui a une valeur juridique. Autrement dit, cette situation est dramatique, mais je dirais qu'elle a le mérite au moins d'obliger certains à se dévoiler. En ce qui concerne les médias, ça se fait. Il y a un mouvement indiscutable. Et en ce qui concerne les politiques, bien entendu, on les attend toujours.
La situation en Palestine semble maintenant inextricable.
Alors,
voyez-vous des motifs d'espérer une évolution ?
Moi, j'ai plein de motifs d'espérer. Le premier, que quand une situation est instable, eh bien, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Et déjà, c'est important, plutôt qu'une situation où les gens s'enferment, se suicident, se jettent à la mer pour essayer de migrer. Donc, il va se passer quelque chose. Alors, vous avez évoqué la partie juridique. La partie juridique est capitale. Il y a eu, concernant Israël-Palestine, au niveau de la Cour pénale internationale, une enquête préliminaire qui a duré 5 ans,
c'est peut-être... Pour crime de guerre.
Pour crime de guerre. La Cour pénale internationale, c'est exclusivement pour les crimes de guerre. C'est la seule cour habilitée. Donc il y a une ouverture d'une enquête, d'une full investigation. Alors bien entendu, le procureur qui a succédé à Fatou Bensouda est l'objet de beaucoup de critiques parce qu'il s'est focalisé sur la guerre en Russie et en Ukraine. Mais pour vous donner une toute petite nouvelle, qui est vraiment toute petite, mais eh bien figurez-vous qu'on recrute à la Cour pénale internationale, on recrute des juristes pour s'occuper de la question palestinienne. Autrement dit, il y a des gens qui travaillent. Il faut se souvenir que Fatou Bensouda a travaillé pendant 5 ans dans le silence absolu. Rien n'a filtré de ses décisions et personne ne croyait qu'elle allait ouvrir une enquête. Autrement dit, il faut garder confiance de ce côté-là. Et en ce qui concerne les Palestiniens, et en particulier le parti Hamas, ils sont extrêmement attachés à l'aspect juridique, car la lutte de libération, c'est politique, c'est la résistance armée, et c'est le juridique. A-t-on jamais vu un mouvement terroriste plaider pour des élections, plaider, envoyer des plaintes à la Cour pénale internationale, près de 4000 concernant les marges du retour, il va y en avoir concernant Jérusalem, concernant le siège. Autrement dit, il y a une offensive juridique qui attend que les tribunaux correspondants donnent signe de vie.
En Palestine, il y a Gaza, qui est actuellement par le Hamas, et nous allons bien sûr y venir à travers ce livre pour lequel nous avons le plaisir de vous recevoir, Histoire de la politique étrangère du Hamas, publié chez Éric Bonnier, ce livre dont vous avez assuré la traduction ainsi que la préface. Et puis il y a en Cisjordanie le Fatah, l'OLP, avec Abbas à sa tête. Que dit-on de la succession d'Abbas? Comment ça risque de se passer, puisqu'il est assez âgé maintenant?
Alors la succession, il y a la manière, je dirais, occidentale, c'est-à-dire qui allons-nous soutenir? C'est la question qu'a posée il y a quelque temps le président français en demandant à un certain nombre de spécialistes ou de lui donner deux noms chacun. Vous voyez, comme si c'était la France, on croirait appartenir à une autre époque, qui allait décider de nommer les responsables palestiniens. Le Hamas est éclectique. Il est contre toujours les accords d'Oslo. Il n'empêche qu'il a accepté de participer à des élections qu'il a remportées. D'ailleurs, maintenant, ça fait quand même pas mal de temps, 2006.
Presque 20 ans.
Et il réclame à tout prix des élections. Autrement dit, une façon d'avancer, déjà, c'est que des élections aient lieu. Or, le président de l'autorité palestinienne, sous l'influence israélienne, évidemment, eh bien, freine des quatre fers. Il a reporté plusieurs fois les élections avec des arguments qui ne tiennent pas la route. Ce n'est pas la peine de revenir dessus. Mais si nos politiques, eh bien, voulaient faire avancer les choses sans se comporter comme des impériaux, eh bien, ils devraient soutenir la réalisation d'élections en Cisjordanie, à Jérusalem, Est et dans la bande de Gaza.
Alors je vous propose maintenant, si vous voulez bien, de rentrer dans ce livre pour lequel nous avons le plaisir de vous recevoir, donc écrit par Daoud Abdallah, et l'histoire de la politique étrangère du Hamas. À qui destinez-vous la lecture de ce livre et puis quelle est sa structure ?
Alors la structure, c'est une structure au départ chronologique, c'est-à-dire que le Hamas est né en 1987 au déclenchement de la première intifada. Il s'est développé, il a décidé d'arrêter les attentats suicides, il a décidé ensuite de participer à des élections. Des élections municipales, il en a remporté un certain nombre. Et puis les élections parlementaires, il a emporté la majorité absolue. Donc c'est une histoire qui mérite d'être connue parce que beaucoup pensent... vous avez prononcé le mot charia tout à l'heure, c'est un mot une sorte d'épouvantail. Bon, ça veut dire le droit musulman, on parle bien du droit romain dont il y a des traces dans le droit aujourd'hui. Le droit, c'est comme la médecine, elle se construit. Le droit se construit sur des jurisprudences qui parfois sont extrêmement anciennes. Il y a même des formules latines dans le droit aujourd'hui. En réalité, le Hamas a démontré qu'il reconnaissait les lois fondamentales palestiniennes, c'est-à-dire une démocratie de type parlementaire avec une opposition, une alternance du pouvoir. Autrement dit, il s'inscrit complètement dans le moule des démocraties habituelles, je dirais.
C'est un point important, parce qu'effectivement, dans notre esprit, en Occident, on associe le Hamas à un mouvement islamique. Et qui dit mouvement islamique, dit... Non, mais c'est ce que l'on croit. Bien sûr, vous allez nous expliquer votre point de vue, le point de vue de Daoud Abdoul en matière. Voilà, c'est un mouvement islamique. D'ailleurs, l'article 9 de sa charte fondatrice, c'est ce que vous expliquez dans l'introduction, de 1988, mentionne l'établissement d'un État islamique. Et donc, quand on entend État islamique, on comprend charia, etc. C'est pour ça qu'on évoque cela.
Non, mais là, ces questions qui sont des questions de Candide, je le sais bien, je les apprécie parce que c'est la meilleure façon de casser les préjugés. Alors déjà, si vous discutez, et je l'ai fait, avec des hauts responsables, des religieux, la notion d'État islamique, la révolution islamique non plus, c'est quelque chose qui pour eux n'a pas... Bon, on ne va pas entrer dans le détail de ce qu'ont pu dire ou penser les uns et les autres. Par contre, la charte, là vous avez raison... La charte de 1988, et c'est un sujet que j'ai bien gratté parce que j'expliquais à mes amis de Gaza, je fais des conférences depuis maintenant plus de 20 ans, je disais, vous savez, je peux vous défendre jusqu'au moment où on parle de la charte. Et cette charte, évidemment, c'est une catastrophe, elle est remplie de clichés antisémites, on parle des francs-maçons, des rotaries, etc. Eh bien, j'ai mis beaucoup de temps à déceler, à trouver qui avait écrit cette charte. Et en réalité, cette charte, elle est écrite... juste après le début de l'intifada, au moment où il y avait une répression israélienne terrible, au moment où la plupart des leaders étaient en prison, les Israéliens s'apprêtaient à mettre en prison le cheikh Yassine et à le condamner à perpétuité. Donc c'était un moment extrêmement dur et ils n'ont pas mesuré l'importance de réaliser une charte correcte. Ils l'ont confié à Abdel Fattah Dourhan, que j'ai rencontré. J'ai fini par savoir que c'était lui, parce que finalement, il n'en était pas fier. Et j'ai des témoins de premier ordre qui m'ont dit, quand Abdel Fattah Dourhan a écrit cette charte, on l'a lu, on lui a demandé de changer, de modifier, il ne voulait rien entendre. Et Abdel Fattah Dourhan, lorsqu'on étudie l'histoire du Hamas et du mouvement qui a précédé le Hamas, qui s'est glissé après sous l'étiquette Hamas, on s'aperçoit que c'est un des compagnons de la première heure. Et donc, l'une des caractéristiques du cheikh Yassine, qui a été le fondateur de tous ces mouvements, eh bien, ça a été d'éviter les conflits. C'était quelqu'un qui avait une vision à long terme. Et quand on a une vision à long terme, on ne se brouille pas avec son camarade de classe, vous voyez. Alors, évidemment... Cette charte aurait dû être révisée depuis longtemps, des centaines, peut-être des milliers d'observateurs l'ont remarqué, et elle a été réécrite. Elle a été réécrite en 2017, elle ne s'appelle pas charte, elle s'appelle document of General Principles and Policies, des principes généraux et politiques. Et cette charte, elle est extrêmement claire, elle est en une quarantaine de 42 points. Et je dois dire qu'elle est remarquable parce que c'est une charte, bien évidemment, qui peut être lue par tout le monde, on la comprend, et qui reprend en les corrigeant complètement tous les défauts qu'on peut attribuer à la première, en particulier sur les questions de l'antisémitisme qui était présent dans la première charte. Eh bien, le point 16, le Hamas affirme qu'il s'oppose aux projets sionistes et non pas aux juifs en raison de leur religion. En réalité, ce sont les sionistes qui assimilent constamment le judaïsme et les juifs à leur projet colonial. Vous voyez, le problème juif, l'antisémitisme, la persécution des juifs, c'est le point 17, sont des phénomènes fondamentalement liés à l'histoire européenne et non à l'histoire des Arabes et des musulmans ou à leur héritage. Vous voyez, donc, cette charte a été bien écrite et vraiment, je mets quiconque à défi de lui reprocher quelque chose. Et sur le plan politique, au fond, elle dit la même chose. La même chose, c'est-à-dire quelque chose que l'on entend rarement sur nos ondes, mais moi, ça fait 20 ans que je l'entends, eh bien, c'est que le Hamas n'est pas naïf. Il ne pense pas qu'on puisse faire une vraie paix, c'est-à-dire une pyrrhée dans les esprits, dans les âmes, en 24 heures. Ce n'est certainement pas avec toute la violence qui s'est déchaînée depuis un siècle sur ce terrain qu'on va arriver en 24 heures à régler tout le monde dans sa tête. Donc il propose un plan par étapes. Il propose dans un premier plan, et ça avait été proposé par le Cheikh Yassine dès les années 90, c'est-à-dire au moment des accords d'Oslo, dans un premier temps, un retrait israélien sans condition de Cisjordanie, Jérusalem-Est et la levée du siège de Gaza, et une trêve de longue durée, c'est-à-dire 15 ans, 20 ans, voire 25 ans. Et au bout de 25 ans, l'eau aura coulé sous les ponts, les esprits sont calmés, des collaborations se seront organisées, et à ce moment-là, le statut définitif en un ou deux États eh bien, sera soumis à référendum à toutes les personnes qui vivent sur place. Mais il n'a jamais été question d'expulser qui que ce soit du territoire d'Israël actuel. Il n'a jamais été question.
Christophe Oberlin, ce document de 2017 qui en quelque sorte remplace la charte fondatrice du Hamas de 1988 qui fait vraiment question parce que elle donne des arguments à ceux qui disent que le Hamas est un mouvement islamique terroriste et qui ne respecte pas les lois fondamentales, la liberté de conscience et dont l'objectif est de mettre en place un gouvernement religieux de type charia sur la Palestine. Et le Hamas affirme ainsi que la totalité de la terre palestinienne est une terre d'islam dévolue aux musulmans à perpétuité. Ce document énonce clairement en matière politique que le Hamas est favorable au respect des libertés fondamentales.
Bien sûr. Et la notion de terre d'islam, ça aussi, c'est une notion qui mérite d'être explicitée. Vous voyez, quand on parle des déclarations des auteurs anciens, plus ou moins anciens, sur lesquels s'appuient les islamistes, d'abord, islamiste, ça veut dire quoi ? C'est assez terrible de voir que certains termes qui ne sont pas des injures, lorsqu'elles sont utilisées par les Occidentaux, peuvent parfois prendre une connotation négative, qui parfois même, et c'est paradoxal, est reprise négativement par les personnes concernées elles-mêmes. C'est un phénomène qui a été très bien décrit par Edouard Saïd dans l'orientalisme. Donc il y a des mots qu'il faudrait, en principe, régulièrement redéfinir pour nos auditeurs. C'est le mot djihad et c'est le mot islamisme. L'islamisme, c'est l'islam politique. C'est l'islam qui s'intéresse à la politique, comme il y a des chrétiens démocrates. Et ça veut dire quoi, l'islam politique ? Ça ne veut pas revenir à la loi d'il y a 14 siècles. Ça veut dire tout simplement, l'islam a des valeurs. Et les valeurs de l'islam, eh bien, si vous voulez les lister, ben vous apercevez que ce sont les valeurs démocratiques que l'on retrouve à peu près partout. Et donc, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que certains auteurs, par exemple, décrit, par exemple, il y a Ibn Taymiyyah qui est très décrié parce qu'il a parlé de la terre islamique, etc. Si vous lisez réellement les textes d'Ibn Taymiyyah, il y a une fatwa qu'il a faite, qui est la fatwa de Mardin, qui remonte au XIIIe siècle quand même, et qui dit, qui règle la question des musulmans dans une société où ils sont minoritaires. Et il dit, s'ils sont minoritaires, à partir du moment où ils ont le droit de pratiquer librement leur religion, on peut dire que c'est la terre à l'islam, que c'est une terre d'islam. Voilà. Les références aux chrétiens, par exemple, figurent dans la charte de 2017. Autrement dit, il ne faut pas se braquer sur des mots, il faut en chercher la signification réelle. Et pour le djihad, c'est la même chose.
Et Christophe Oberlin, c'est pour ça que les termes de cette nouvelle charte sont importants, mais néanmoins, quand on regarde ce qui se passe dans les pays où règne la charia, où règne un régime islamiste, la situation est très souvent terrible pour ceux qui ne sont pas musulmans. Mais ce n'est pas l'objet, je pense qu'il y aura beaucoup de
dictatures. Ce sont tous des dictatures. Ce sont des dictatures.
Oui, mais ce sont des dictatures musulmanes où la charia est appliquée de manière extrêmement rigoureuse. Il suffit de voir le sort qui est réalisé à ceux qui est, de ceux qui ne sont pas musulmans dans ces pays. Ça, c'est une réalité.
Moi, je suis chirurgien de la main. On n'a jamais coupé une main à un voleur à Gaza. Jamais.
Ce qui nous intéresse, c'est Gaza. En revanche, il y a de nombreux pays autour de Gaza qui sont régis par la loi islamique où on lapide toujours les femmes.
Mais on n'est pas réalité. Question de lapider qui que ce soit à Gaza et en Cisjordanie.
Je ne pense pas qu'on puisse comparer l'islamisme à la démocratie chrétienne. Pardonnez-moi, je réagis là-dessus.
Mais les islamistes.
Revenons à la situation à Gaza, c'est parce que c'est celle-là qui nous importe. Donc vous nous expliquez que le Hamas est un mouvement effectivement à caractère musulman, puisqu'il le dit clairement, mais respectueux des lois fondamentales en la matière. Donc s'il est au pouvoir un jour en Cisjordanie, il respectera ces lois fondamentales.
Il est déjà au pouvoir à Gaza.
Qu'en est-il justement à Gaza actuellement?
Il est au pouvoir à Gaza et moi j'admire beaucoup les gens qui sont passés d'une résistance physique qui est terrible mais qui est finalement relativement confortable intellectuellement à une résistance économique. Voilà maintenant 17 ans que les hôpitaux fonctionnent et moi je travaille dans les hôpitaux uniquement avec des Palestiniens. Donc je vois des gens qui se décarcassent du matin au soir, je vois des cancéreux, je vois des gens qui meurent faute de matériel à cause du siège. Je voudrais vous citer un document qui est un document très important, qui est un document qui a chiffré le coût pour les Palestiniens du siège de Gaza. Et ce document, ce n'est pas un document orienté, c'est un document de l'ONU qui vient du CNUSED, qui est la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Eh bien, ils ont chiffré à partir de la prise du pouvoir par le Hamas en 2007 jusqu'en 2016, ils ont chiffré la dette à 17 milliards de dollars et jusqu'aujourd'hui à 25 milliards. C'est-à-dire que la bande de Gaza est en état de demander 25 milliards de dollars à la partie israélienne pour le dédommagement lié au siège.
En effet, Christophe, vous décrivez la situation des habitants de Gaza qui est épouvantable, bien entendu, et qui ne s'améliore pas. C'est une véritable prison à ciel ouvert, c'est ce que vous aviez décrit, de ce que vous avez constaté à Gaza. Ma question sur la situation à Gaza, c'est la situation politique. Est-ce que le Hamas, à Gaza, respecte les libertés fondamentales ?
Écoutez,
est-ce qu'il y a la liberté de conscience? Est-ce que les droits des femmes sont équivalents aux droits des hommes? Est-ce qu'il y a la liberté religieuse, etc.?
Alors, écoutez, moi, je suis médecin, chirurgien. Je ne suis pas un enquêteur. Mais si quiconque veut faire une enquête approfondie, eh bien, il y a des organismes qui sont là pour ça. Et ils sont très, très, très bien accueillis. S'il y a des critiques qui sont faites, il faut que ces critiques soient faites de façon précise, qu'on nous parle de telle ou de telle personne. Mais je ne suis pas le récipiendaire des plaintes des uns et des autres. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'une femme peut se promener à 2h du matin, moi je l'ai expérimenté maintes fois dans les rues de Gaza sans se faire agresser, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des chrétiens parmi les membres fondateurs des mouvements créé par la suite le Hamas. Je peux dire qu'il y a des chrétiens qui sont chirurgiens, directeurs d'hôpitaux, que sais-je. Alors les chrétiens, c'est un pour mille, alors évidemment il n'y en a pas beaucoup. Mais en tout cas, dans la nouvelle charte, il est bien précisé que la liberté de religion est absolue, y compris incluant, bien entendu, les chrétiens. Les chrétiens, c'est la prunelle des yeux de l'administration de Gaza, car ils savent très bien que si un chrétien a une égratignure, le monde entier va l'exploiter. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chrétiens eux-mêmes. J'ai fait un livre sur les chrétiens de Gaza. Combien de fois m'a-t-on dit « nous sommes encore plus en sécurité que n'importe quel Gazaoui » Et il y a même une alliance politique avec les chrétiens. Le père Moussalem, qui a vécu 10 ans à Gaza, qui est une figure charismatique, qui est un personnage extraordinaire, le père Moussalem, au plus fort des violences il y a quelques années, a demandé au Hamas de faire une alliance, j'ouvre les guillemets, une alliance entre les chrétiens et le Hamas. Je connais très bien Mariam Aboud-Dakka, qui est la tête de liste du FPLP, c'est-à-dire la gauche laïque. Mariam Aboud-Dakka, Elle est reçue par le Hamas, non pas comme une femme, mais comme la représentante du FPLP. Et le FPLP a même fait élire une femme, et on s'en souvient peut-être, il y a bien longtemps, maire de Bethléem, je crois, Jeannette Coury, qui était une chrétienne. Vous voyez, donc vraiment, ces classifications ne sont pas pertinentes au niveau du terrain.
Mais c'est important, je pense, d'approfondir ces points, Christophe Oberlin, parce que le Hamas est classé par les États-Unis comme un mouvement terroriste aussi par un certain nombre de pays européens. Et on lui reproche ses actions terroristes. On lui reproche justement le fait qu'au départ, la branche politique est issue des frères musulmans. On lui reproche d'être un mouvement religieux. On lui reproche de ne pas respecter les libertés à Gaza. Et on lui reproche ses actes terroristes, etc. Donc c'est pour ça qu'il est important de mettre des arguments très factuels en face de cela.
Alors écoutez, là, il y a au moins trois questions dans votre question. Je commencerai peut-être par la dernière, le mouvement issu des frères musulmans. Alors là aussi, il y a véritablement une énorme pédagogie à faire, et c'est une pédagogie qui est faite par certains chercheurs de très haut niveau, comme François Burga en France ou Barbara Zollner au Royaume-Uni. Il faut sortir de cette vision très schématique qui a été la ligne de nos instituts en France depuis tellement d'années, qui fait entre une petite phrase du Coran et un attentat dans nos banlieues une ligne quasi directe, si vous voulez. Ça ne se passe pas comme ça. Depuis l'origine, les frères musulmans, je vous l'ai dit, c'est un mouvement. C'est-à-dire c'est un mouvement qui part de la base, qui part par l'éducation et qui pense qu'il faut respecter un certain nombre de valeurs. Donc c'est un mouvement de valeurs. Alors bien entendu, dans un mouvement qui a atteint très rapidement plus d'un million de personnes en Égypte, eh bien, il y a des extrémistes, il y a des fous furieux, il y a des meurtriers de l'islam. Moi, je n'aime pas beaucoup le mot djihadiste parce que c'est un non-sens par rapport à la signification réelle du mot djihad. C'est vraiment un détournement de définition. Mais les meurtriers de l'islam, ce sont des meurtriers et puis en même temps, ils tuent l'islam parce que finalement, ils ne connaissent pas le véritable islam. Donc, ce n'est pas en montrant les meurtriers de l'islam que l'on peut définir le mouvement des frères musulmans. Le mouvement des frères musulmans doit être connu. Moi, j'engage vivement ceux qui nous écoutent à lire le livre « L'histoire des mobilisations islamistes 19e-21e siècle » sous la direction de François Burga et Mathieu Ray, et en particulier les chapitres de Barbara Zollner. On voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On voit que ces mouvements ont été en permanence réprimés par des pouvoirs dictatoriaux qui craignaient de perdre leur pouvoir. Donc c'est un mouvement qui a été réduit à l'invisibilité pendant des dizaines et des dizaines d'années, et jusqu'aujourd'hui.
Mais l'une des raisons pour lesquelles il y a des difficultés très importantes entre l'Égypte et le Hamas à Gaza, c'est justement cette origine proche des frères musulmans.
Bien sûr, l'Égypte est le terrain où s'illustre cette lutte entre les pouvoirs dictatoriaux et les frères musulmans. Il faut se rappeler que Seyed Koutoub, qui a finalement été pendu par Nasser, c'était un ami de Nasser, s'il a aidé Nasser à venir au pouvoir. Et puis il y a eu un attentat contre Nasser, une répression terrible, et Seyed Koutoub a été pendu pour avoir écrit un livre que j'ai lu, moi, vous savez, un livre qui s'appelle Jalon sur la route, je ne sais plus de quoi. Je veux dire, il n'y avait pas de quoi tordre une patte à un canard. Voilà. Autrement dit, les pouvoirs dictatoriaux, eh bien, quand ils se sentent menacés par un mouvement qui monte du peuple, eh bien, ils répriment. Et c'est quelque chose qu'on connaît jusqu'aujourd'hui.
Dans cette charte de 2017, quels sont les objectifs du Hamas ?
Les objectifs, c'est d'établir un État démocratique avec un homme, une voix, une égalité des droits sur l'ensemble de la Palestine.
Sur l'ensemble de la Palestine, y compris Israël.
Alors, l'ensemble de la Palestine, je vous ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est ça. Les moyens, c'est par étapes, une trêve de longue durée, 10 ans, 20 ans, 25 ans, voilà. Donc, l'objectif, c'est l'État palestinien moderne. Juridiquement, il existe depuis 1920-1922. C'est l'un des nombreux États qui sont issus du démantèlement volontaire de l'Empire ottoman, donc ça a une valeur légale. l'Irak est un pays indépendant, la Syrie est un pays indépendant, et la Palestine, eh bien, pendant la période du mandat britannique, passait des accords internationaux, y compris avec la puissance tutélaire qu'est le Royaume-Uni, avec tous ses voisins, avait son système juridique propre, et avait toutes les caractéristiques d'un État, sauf qu'il était sous mandat. Autrement dit, la Palestine en tant qu'État a beaucoup plus de caractère étatique que le territoire actuel d'Israël, qui n'a toujours pas de frontières, toujours pas de constitution, pas d'égalité des droits, un véritable régime d'apartheid qui est maintenant installé et officiel. Vous voyez, voilà. Donc, il faut comprendre que la position du Hamas, paradoxalement, par rapport à ce que beaucoup pensent, c'est une position extrêmement raisonnable.
Nous allons faire une petite pause de quelques secondes pour un message important qui concerne Radio Courtoisie. Et nous reprenons l'émission quelques secondes après.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous poursuivons cette émission en compagnie de Christophe Oberlin, qui a traduit cet ouvrage de Daoud Abdullah, Histoire de la politique étrangère du Hamas, et qui est publié aux éditions Éric Bonnier. Nous avons consacré la première partie de cette émission à la situation assez dramatique actuellement en Cisjordanie et à Gaza, à travers toutes ces violences et toutes ces victimes, cette paix et cette indépendance de la Palestine qui sont extrêmement loin. Et puis nous avons poursuivi sur ce qu'est le Hamas, sur l'histoire du Hamas, que nous a expliqué effectivement Christophe Oberlin, qui dit: mais non, il ne faut pas s'attacher à la charte de 1988, mais s'attacher à celle de 2017, qui dit que clairement que même si effectivement le Hamas est un mouvement religieux, il garantit les libertés fondamentales, et son objectif, nous a rappelé Christophe Oberlin, c'est effectivement mettre en place une démocratie sur l'ensemble du territoire de la Palestine. Alors nous avons de nombreux messages d'auditeurs, Christophe Oberlin, qui ne sont pas forcément très favorables à vos propos, mais voilà, je vous les soumets, hein, c'est l'occasion d'y répondre. Un auditeur qui vous dit, la question est-ce que le Hamas veut vraiment la paix avec Israël? Et cet auditeur d'ailleurs en doute, puisque pour lui, le Hamas vise à la destruction, à la disparition d'Israël.
Je vous laisse. Non, mais la réponse, vous la devinez. Bien sûr qu'ils veulent la paix. Imaginez des gens qui ont perdu des membres de leur famille, qui sont passés en prison pour près d'un million, qui voient leurs jeunes mourir en Méditerranée, et des gens qui sont en moyenne plus éduqués, je dirais, que vous et moi, puisque c'est certainement le pays arabe où les gens sont plus éduqués pour des tas de raisons, et notamment pour les raisons du siège. Les gens ne font que travailler, et ils travaillent, ils vont à l'université, ils parlent anglais. Ce sont des gens extrêmement éduqués. Et l'image, à une conférence récemment, on m'a demandé vous parlez-nous de l'éducation à Gaza, est-ce qu'ils vont dans des écoles coraniques? Je veux dire, les bras m'en tombent quand j'entends des choses comme ça. Ils vont à une école...
C'est l'image que nous avons.
Ah oui, mais alors...
C'est l'image que nous avons.
C'est dramatique. Et pour vous donner un exemple, j'ai un de mes amis qui depuis 20 ans, soutient très activement la cause palestinienne, mais qui n'était jamais allé sur place. Et il m'a dit: Christophe, écoute, franchement, je ne pouvais pas imaginer que ça se passait à ce point-là. Avec l'équipe qu'il a emmenée, parfois devant les témoignages, notamment des familles, des femmes, des enfants, ils pleuraient littéralement devant les récits qu'on leur faisait du quotidien de l'humiliation et de la misère. Donc il est évident que tout le monde recherche la paix, et je dirais tous les Palestiniens, même quels que soient les partis politiques.
Alors un auditeur qui nous dit qu'il est certain que le Hamas a tout intérêt à des élections, puisqu'il est presque sûr de les emporter dans une population palestinienne poussée à l'extrême. Et il ajoute, la charia est un droit, comme le droit romain. Pouvez-vous expliquer si la lapidation des femmes adultères, sur l'homosexualité, je n'en parle même pas, votre invité est très gentil, et un bon témoin sans doute de la vie terrible à Gaza et en Cisjordanie, mais il devrait prendre un peu de recul aussi.
Bon, figurez-vous, je prends du recul, parce que c'est quand même 20 ans que je travaille là-bas, j'ai écrit une dizaine de bouquins, et on ne les écrit pas comme ça sur un coin de table, donc on travaille, j'ai fait énormément d'entretiens avec des grands, des petits, et voilà. Sur les questions du droit, le droit c'est le même que chez nous, il n'y a pas de différence. En ce qui concerne les femmes adultères, déjà je vous dirais que vous serez peut-être surpris, mais par exemple la polygamie est quelque chose de très rare à Gaza. Et de toute façon, on ne change pas une société par les bombardements, par le siège, par affamer les gens, par interdire la radiothérapie, vous voyez, c'est pas comme ça qu'on change une société, et de toute façon, c'est pas à nous de la changer.
Mais moi, je crois qu'il y a quand même un point très important, Christophe Appanel, je vous propose de l'aborder. Maintenant, on reprendra les messages, et c'est un point qui est développé dans ce livre de Daoud Abdullah, et puis, si nous avons le temps, nous parlerons aussi des autres aspects de cette politique étrangère du Hamas. Il y a un point qui est très important, ce sont les élections de 2006. Comment cela s'est-il déroulé? Quelles en ont été les conséquences, notamment sur le plan international, dans l'attitude des dirigeants américains, notamment, mais aussi britanniques et autres, vis-à-vis du résultat de ces élections?
Alors, pour les Américains, et c'est très bien détaillé dans le livre d'ailleurs, ils ont fait tout simplement un plan pour la présidence palestinienne, qu'ils ont appelé comme ça, c'était le plan d'un coup d'État. C'est parfaitement connu, c'est passé dans les Wikileaks, c'est-à-dire qu'ils ont prévu un coup d'État. D'ailleurs, sur place, moi j'y étais plusieurs fois pendant cette période transitoire qui a duré un petit peu plus d'un an. Il y a eu une tentative de coup d'État et ça a été un échec. La réaction
occidentale. Parlez-nous des élections proprement dites.
Les élections, écoutez, d'abord, tous les observateurs, y compris Michel Rocard qui en faisait partie, tous les observateurs ont dit que les élections s'étaient déroulées d'une manière tout à fait transparente. Ça a été une surprise parce que l'ampleur du succès. Mais déjà, dans l'année qui a précédé, il y avait eu des élections municipales qui se déroulaient par roulement, si vous voulez, pas toutes le même jour. Et nous avions remarqué que l'autorité palestinienne soumettait à élection les municipalités qu'elle pensait gagner. Et elle les perdait toutes. Donc on voyait qu'il y avait déjà un mouvement. Donc le Hamas, on ne pensait pas qu'il aurait la majorité absolue, mais qu'il ait un gain substantiel, c'était tout à fait possible. De toute manière, moi j'ai entendu de mes propres oreilles, avant ces élections, des responsables du Hamas nous disant: finalement, nous n'espérons pas gagner la majorité dans ces élections parce qu'il y aura immédiatement des sanctions. Et nous avons besoin de financement pour les municipalités, les projets, etc. J'ai entendu de mes propres oreilles. Ils ont été eux-mêmes surpris. Et en ce qui concerne les sanctions, elles sont tombées immédiatement. Et pour vous donner un exemple personnel, moi, jusqu'à mes missions étaient financées par le ministère français des Affaires étrangères jusqu'en février 2006. Et en mars 2006, j'ai eu une mission et le financement a été coupé jusqu'à aujourd'hui, vous voyez. Donc ça a été une réaction très primaire de la part des Occidentaux. Et aujourd'hui, me dit-on, il y a des émissaires européens qui circulent dans la bande de Gaza et qui disent off record, qui disent ça a été une erreur, une grave erreur de ne pas reconnaître le résultat de ces élections.
Il y a un certain nombre de dirigeants politiques, notamment britanniques, se sont clairement exprimés là-dessus. Ils ont quelque peu pâti de leur indépendance d'esprit. Pouvez-vous nous dire ce résultat, majorité absolue pour le Hamas, au détriment du parti historique quand même, le Fatah, qui a même surpris ce résultat, a même surpris les dirigeants du Hamas. C'est ce que vous venez de nous expliquer. Pourquoi les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie ont voté massivement pour le Hamas, alors qu'il y a eu les accords d'Oslo, il y avait ces négociations, cet accord entre Israël et le Fatah, et pourquoi les dirigeants occidentaux n'ont pas reconnu le résultat d'un vote démocratique, puisqu'il y avait des observateurs?
Moi, en ce qui concerne les Palestiniens, il y a eu l'euphorie d'Oslo. Oslo, c'est 1993, l'arrivée d'Arafat à Gaza, Jéricho d'abord, 1994. les élections de 2006, vous voyez, c'est 10 ans après. Mmh. Et 10 ans après, eh bien, c'était la grande déception. Et c'est pour ça que ce vote Hamas, cette base électorale, il faut vraiment la considérer comme telle et non pas comme un parti politique qui a ses partisans. Moi, je connais énormément de gens qui sont Fatah et qui votent Hamas, vous voyez, et qui disent « demain, je voterai Hamas ». Aujourd'hui, plus que jamais, parce que finalement, le principal grief qu'on fait à l'autorité palestinienne, finalement, c'est de faire les substitutifs, et c'était dans les accords d'Oslo, de l'armée israélienne en Cisjordanie. Vous avez des Palestiniens qui tirent sur des Palestiniens, qui emprisonnent des Palestiniens, qui meurent parfois en prison. Et quand vraiment c'est trop chaud, ils se retirent et on donne l'armée israélienne avec toute sa puissance de feu. Autrement dit, il y a une véritable révulsion des Palestiniens contre l'autorité palestinienne, notamment pour ce qui est appelé pudiquement la collaboration sécuritaire. En fait, ce sont les harkis de la guerre israélo-palestinienne.
Ce reproche est toujours le reproche qui est fait actuellement. S'il y avait des élections maintenant en Palestine, donc Cisjordanie et Gaza, j'imagine qu'il y a des sondages qui sont pratiqués, qu'on a une idée, bien que en 2006 tout le monde était surpris par le résultat. Qu'est-ce que ça donnerait d'après vous ?
Je ne veux pas faire de pronostic parce qu'on va encore m'accuser de faire du militantisme, mais moi je soutiens de façon microscopique, hein, je ne suis rien du tout, mais j'essaye à travers mes livres, mes conférences, de donner le point de vue des Palestiniens et de montrer qu'ils ne sont pas différents de nous et qu'ils ont droit finalement à la même chose que nous. Ils ont droit à avoir un avenir et puis c'est tout.
Un auditeur qui vous met au défi de démontrer que le Hamas souhaite la paix avec l'existence d'un État israélien.
Bah écoutez, on a essayé de faire un débat comme ça avec vous, Thierry Delcourt. Ça a eu lieu il y a quelques mois.
Oui.
Vous aviez lancé à l'antenne, non pas un défi, mais une proposition amicale qui est d'organiser une discussion avec un Français sioniste déclaré. Voilà. Et donc cette discussion a eu lieu. Ça a été un succès en ce sens qu'on ne s'est pas écharpé. Et grâce à vous, les temps de parole ont été respectés. On a vu un certain nombre de désaccords, je passerai rapidement. La chose importante qu'il a dite plusieurs fois, c'est que les Israéliens n'ont rien à faire en Cisjordanie.
Oui,
et c'est vrai, il l'a dit plusieurs fois. Et ça, c'est important.
C'est très important.
Parce que ça serait une façon de faire baisser la pression d'une façon considérable. Du jour au lendemain, les paradigmes seraient complètement changés. Donc je pense qu'on a besoin dans notre pays, parce que l'avenir israélo-palestinien se déroule aussi dans notre pays, parce que notre pays est un pays puissant, qui intervient puissamment là-bas, qui a des accords de coopération. Je vous ai dit que M. Macron demandait 2 noms pour succéder à Mahmoud Abbas. Voyez. Donc on manque aujourd'hui de débats contradictoires sur cette question pour déconstruire un certain nombre d'idées reçues.
Dans quelles circonstances, puisque vous évoquez les négociations avec Israël, entre l'OLP et Israël, comment s'est positionné le Hamas par rapport à ces négociations entre le Fatah et Israël? Parce qu'ils ont été conviés à ces élections, on leur a proposé, c'est ce que raconte Daoud Abdullah dans ce livre, Histoire de la politique étrangère du Hamas aux éditions Rick Bonnier, que vous traduisez et dont vous faites l'introduction, Christophe Oberlin. On leur a proposé 2 sièges aux négociations, ce qu'ils ont refusé.
Disons que là on entre un peu dans le technique. Il y a plusieurs niveaux de représentation à l'OLP. Il y a le Conseil législatif, il y a le Conseil national qui englobe les Palestiniens de l'extérieur. Et Arafat, à un moment donné, a proposé quelques sièges au Hamas. Je crois qu'il a proposé 2 sièges. Et donc c'était hors de proportion avec ce que représentait le Hamas électoralement. C'est pour ça que le Hamas est attaché à des élections qui sont des élections présidentielles, législatives et Conseil national palestinien, ce qui inclut les Palestiniens des camps de réfugiés et de la diaspora. Donc cette façon de... Les élections régleraient tout. parce qu'on entend encore parler, prononcer le mot de réconciliation. Oui, est-ce qu'on demande aux partis politiques français de se réconcilier avant les élections? Ça n'a aucun sens, ça n'a pas plus de sens là-bas. Donc il n'est pas question de se réconcilier, tout simplement de se mettre d'accord. Il y a eu des accords pour des élections, et puis les élections plusieurs fois ont été différées, voire puis annulées par le président de l'autorité palestinienne. Mais de toute façon, M. Abbas a 86 ans, et donc la question d'élection, elle est pendante. Il n'est pas sûr du tout que plus on attendra, mieux ça se passera.
Que s'est-il passé localement en 2006, après ces élections remportées majoritairement par le Hamas? Y a-t-il eu la constitution d'un gouvernement regroupant à la fois Fatah ou LP et personnes du Hamas? Comment ça s'est passé? Par quel processus on est arrivé à cette séparation de fait, le Hamas à Gaza et la Cisjordanie au Fatah?
Le Hamas n'a jamais souhaité faire un gouvernement seul. Et donc il y a une tentative de constitution d'un gouvernement d'union nationale qui n'a tout simplement pas été acceptée par Israël et par les Américains. Et ça aboutit à la constitution d'une force. C'est bien raconté dans le livre par Daoud Abdullah, d'une force qui a été chargée de prendre le pouvoir et cette force n'a pas réussi. Il y a une deuxième tentative de gouvernement d'union nationale avec des élections. Je me souviens, la campagne électorale a eu lieu, je crois que c'était en 2017, si je me souviens bien, mais je peux me tromper. Et je me souviens que 87% des gens en âge de voter s'étaient inscrits sur les listes électorales, ce qui est quand même un signe. Vous voyez, quand on voit le niveau de participation électorale dans notre pays, quelles leçons avons-nous à donner, à vouloir légiférer sur tout ce qui se passe là-bas? Et puis les élections ont été annulées, et puis dans des conditions, bon, je passe, je pourrais les détailler, mais il faudrait un quart d'heure. Et puis il y a eu une dernière tentative, et là M. Abbas a dit, ah ben non, les Israéliens ne vous donnent pas l'autorisation de faire des élections à Jérusalem-Est. Comme si on demandait à la puissance occupante l'autorisation de faire des élections. C'est au contraire à montrer, nous sommes capables d'organiser des élections dans de bonnes conditions, sans violence, et on peut mettre des bureaux de vote où on veut, et voilà. Et puis si les élections sont empêchées, que les tanks sont envoyés devant les bureaux électoraux, moi le monde entier le verra. Mais ce n'est certainement pas cet argument qui aujourd'hui tient la route. Donc de toute façon, cette affaire va se terminer par des élections, et le plus tôt sera le mieux.
Et d'où vient le coup de force? Parce qu'on a l'image d'un coup de force du Hamas à Gaza. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des interventions de gouvernements étrangers, justement, pour faire en sorte que l'un soit éliminé par l'autre?
Alors là, sur le plan de la recherche, c'est écrit dans le livre de Daoud Abdullah. Il y a les Wikileaks avec le plan Dayton qui ont été dévoilés. Moi, sur place, ce que j'ai vu, c'est une armée avec des uniformes complètement différents qui envahissait les rues avec des armes et même avec des blindés légers. Vous voyez, le Hamas n'a jamais eu la capacité ni de faire passer des blindés par les tunnels, ni de les fabriquer. Donc on voyait manifestement qu'il y avait deux forces armées dont l'une, sans doute, n'était pas très, très motivée. Il faudrait revenir sur la manière dont ces forces armées introduites par Dayton ont été formées, notamment en Jordanie. Ça donne le frisson. Dayton a osé prétendre devant le Congrès, je le cite, « Nous avons formé un homme nouveau. » Un homme nouveau, voilà. Bon, c'était pas un homme nouveau, c'était quelqu'un qui a eu un salaire, et puis au premier coup de pétoir qui est parti, parce qu'on ne fait pas tirer facilement des Palestiniens sur des Palestiniens.
Mais vous pensez qu'il est réaliste d'espérer des élections prochainement sur l'ensemble de la Cisjordanie et de Gaza?
Je pense qu'il faut supprimer le mot « prochainement » de votre phrase, mais de toute façon, il y aura des élections, de toute façon. Alors la question, c'est de savoir si ça vient rapidement, et à ce moment-là, les dégâts seront, si j'ose dire, seront limités. Sinon, ben, ça sera un embrasement terrible
et durable. Est-ce que les puissances qui sont intervenues après les élections de 2006, notamment pour que le Hamas soit chassé du pouvoir, est-ce qu'elles n'interviendraient pas à nouveau, soit pour empêcher des élections, ben, sachant que le résultat risque d'être connu et défavorable au Fatah, si, selon vos explications? Croyez-vous que Israël, les États-Unis, par exemple, accepteront dans ces conditions, les élections en Palestine.
Il ne s'agit pas de qu'ils acceptent, il s'agit de les organiser. Et à ce moment-là, on verra bien ce que la puissance occupante fait. Mais en ce moment, elle est dans une position difficile, la puissance occupante, parce que elle a la Cour pénale internationale qui s'intéresse beaucoup. Il y a des déclarations, comme vous l'avez dit, de plus en plus pressantes de limiter l'exercice de la force. Et donc, la meilleure façon de limiter l'exercice de la force, c'est de faire des élections et dans le calme.
Mais des élections, ça présuppose un accord entre justement le Hamas et le Fatah. Le Fatah à Ramallah et le Hamas à Gaza. Vous pensez que c'est un accord serait envisageable, est-ce que bien réaliste?
Eh bien, il y a eu deux fois cet accord, et puis l'accord ensuite a été cassé, hein, pour ne pas dire qu'il n'a pas été respecté. Vous savez, le Fatah, c'est une nébuleuse. À Gaza, on parle des good Fatah et des bad Fatah, vous voyez. Parce que beaucoup de gens du Fatah se disent que il faut aller aux élections, ils sont prêts à jouer le jeu. Et ce qu'on dit à Ramallah, c'est que de toute façon, c'est Mahmoud Abbas qui décide de tout. Il y a beaucoup d'exemples en ce sens. C'est lui qui décide de tout.
Mais pour l'instant, il n'est pas du tout favorable, visiblement, à la tenue des élections. Je poursuis la lecture des messages. Alors, une auditrice qui a regardé sur Internet le curriculum de Daoud Abdullah. Et il voit qu'effectivement, vous l'aviez précisé, qu'il est né à Grenade, qu'il a étudié l'arabe dans les années 80 et 90 en Arabie Saoudite et au Soudan, pays qui brille, dit-elle. Ce sont ces termes par leur humanisme et leur tolérance, tout le monde le sait. Voilà, que elle met en quelque sorte des doutes sur l'objectif de
moi je pense que vous savez, quand on ne peut pas critiquer le message, on critique le messager. Alors vous voyez, on s'attaque à Daoud Abdullah qu'on ne connaît pas. Chère madame, si c'est une dame, je crois, commencez par ce livre. Et moi, je souhaiterais véritablement que, au-delà de cette émission, que des commentaires que vous pourriez faire me soient transmis. Ça m'intéresse beaucoup de les écouter, de les lire et d'y répondre.
Moi, je vous transmettrai.
Donc, je vous donne mon adresse mail. Hein, je la donne publiquement. De toute façon, tous mes patients l'ont, elle est connue. C'est mon nom, christophe.oberlin@gmail.com. christophe.oberlin@gmail.com. N'hésitez pas, je répondrai à toutes les interventions.
Eh bien, je peux aussi assurer les auditeurs que Christophe Opalin vous répondra. En effet, ça s'est passé déjà de la sorte lors d'émissions précédentes et je suis persuadé que vous ferez aussi, vous répondrez aux auditeurs de Radio Courtoisie qui vous contacteront. Et Christophe Oberlin, donc après avoir effectivement nous avoir présenté ce qu'était que le Hamas, d'ailleurs un auditeur vous pose cette question, quelle est la signification du mot Hamas ?
Alors le Hamas, je ne suis pas arabisant, mais le mouvement est né avant le début de l'intifada de 1987. C'était le mouvement islamique. Il est né de plusieurs mouvements, notamment du syndicat des médecins de Gaza. Et puis, au moment de l'intifada, il s'est appelé mouvement de la résistance islamique, Hamas. Et il se trouve qu'en arabe, les initiales, si vous voulez, de mouvement de la résistance islamique, c'est un très petit mot qui signifie ferveur. Voilà. Donc le nom a été donné tout de suite, mais la signification, ferveur est venue après. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire, c'est mouvement de la résistance islamique.
Quelle est la position de l'Union européenne ? Est-ce qu'elle considère le Hamas comme un mouvement terroriste, le mettant sur sa liste noire ou pas ?
Alors, c'est une très bonne question parce que quand vous dites la position de l'Union européenne, c'est une position politique, 100% politique. Et je dois dire que c'est le seul reproche que je ferai à mes amis du Hamas, c'est qu'ils ont mal choisi leur avocat pour cette question, car ils se trouvent dans une situation invraisemblable où ce mouvement qui n'a jamais fait la moindre activité armée sur le territoire de l'Union européenne. Et je vous rappelle que Israël n'en a pas fait autant. Des responsables politiques ont été assassinés en France sans que la France ne lance aucune investigation. Il y a des artistes, Nadia Lali, qui a été assassinée à Londres, etc. Bon. En ce qui concerne le Hamas, et ça fait partie justement, c'est ça qui est intéressant au début du livre, c'est les bases de la politique étrangère. Il y a 5 piliers. Et le cinquième pilier, qui est à mon avis le plus important, c'est aucune résistance armée. Je vous rappelle que la résistance armée est autorisée pour les mouvements de libération nationaux. Aucune résistance armée en dehors du territoire de la Palestine. Donc l'Europe n'a vraiment rien à voir là-dedans. Et le Hamas, la seule fois où une action juridique a été correcte a été engagée, le Hamas a été retiré de la liste par les Européens. Le tribunal, la Cour de justice de l'Union européenne, la sortie de la liste.
Alors que l'Union européenne l'avait placé sur cette liste.
Oui, et donc comme les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent tous les 6 mois, et sur un coin de table, eh bien, renouvellent la liste, l'établissent. Et là, c'est vraiment de l'opinion. Et donc, il a été instantanément remis sur la liste. Et jamais il n'y a eu, au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne, de débat sur le fond, où on demande des preuves. Ça n'a jamais, jamais, jamais été. Ce n'était que des affaires de procédure. Autrement dit, la défense à ce niveau-là était très, 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 très faible.
Et quels sont les autres pays qui ont mis le Hamas sur la liste noire?
C'est
le mouvement terroriste.
Les États-Unis, le Royaume-Uni qui recopie en gros celle des États-Unis, et l'Union européenne qui recopie celle du... Voilà, c'est transitif. Donc c'est l'Union européenne dans son ensemble.
Alors, le livre de Daoud Abdullah, donc je rappelle le titre, Histoire de la politique étrangère du Hamas, est traduit par Christophe Auperlin, que nous avons plaisir de recevoir ce soir, chers auditeurs de Radio Courtoisie, traduit donc aux éditions Éric Bonnier. Daoud Abdullah fait l'état, en fait, des relations actuelles du Hamas avec un certain nombre de pays. Alors, c'est quand même un mouvement, on peut le constater, qui est quand même mis au banc de beaucoup de pays puissants de ce monde, hein. L'Union européenne, le Royaume-Uni, quoique au Royaume-Uni, il y a quand même des hommes politiques qui se distinguent, hein, qui n'hésitent pas à prendre des positions contraires. Il y a par exemple Chris Patten, qui s'est
pris des positions,
solidarisé en quelque sorte des positions de Blair. Et puis il y a Jack Straw qui a déclaré à un groupe de journalistes que l'Occident doit parler au Hamas parce que justement le Hamas avait gagné les élections. Et c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer une paix se faire sans l'expression de la majorité des habitants d'un pays. Ça paraît être du bon sens. Alors quels sont les pays que vous voudriez mentionner pour les éditeurs de Radio Courtoisie avec qui le Hamas entretient de bonnes relations? Où il a, par exemple, une représentation?
Alors, il suffit de se rappeler qu'avant la création de l'ONU, eh bien, les trois quarts de l'humanité étaient constitués par des colonies. Voilà. Les trois quarts de l'humanité, c'était des colons, des sujets, hein, comme disait Jean-Paul Sartre. Et donc, il en reste des pays qui ont été colonisés, il en reste toujours quelque chose. Autrement dit, à l'Assemblée générale des Nations unies, l'immense majorité des États sont des soutiens des Palestiniens. Alors, on parle toujours des Occidentaux, Israël, les États-Unis et l'Europe, mais ils ne représentent qu'une petite partie de l'humanité. Autrement dit, par exemple, si l'on soumettait à l'Assemblée générale des Nations unies la question de l'exclusion d'Israël des Nations unies, ça a été fait pour l'Afrique du Sud de l'apartheid, peu de gens s'en souviennent, mais l'Afrique du Sud a été exclue des Nations unies pour cause d'apartheid. Et donc l'apartheid est tombé et ils ont été réintégrés. D'ailleurs, c'est l'un des appuis les plus puissants du Hamas, c'est justement cette Afrique du Sud. Voilà. Alors, il y a des pays qui sont des poids lourds. La Chine, par exemple. La Chine reconnaît le Hamas et ne le classe pas sur la liste des organisations terroristes. La Russie aussi. Alors la Russie, aujourd'hui, elle n'est pas en odeur de sainteté, mais quand même, M. Poutine a fait un séjour à Gaza en 2005. Il a déclaré que pour lui et pour la Russie. Mais une chose qui est importante, c'est que les politiques étrangères, la diplomatie survivent aux responsables politiques, hein, et en France comme dans les autres pays. Il y a une politique étrangère qui a un effet de lissage, si vous voulez, et jusqu'aujourd'hui, les responsables du Hamas sont reçus à Moscou par M. Lavrov, par exemple, qui est le ministre des Affaires étrangères. Ils sont reçus en Chine. Et donc ça, c'est important parce que ce sont deux membres permanents du Conseil de sécurité. Et puis sinon, en gros, ce sont parmi les grands pays, ce sont les pays des BRICS, le Brésil, par exemple.
On découvre, à la lecture de ce livre, que c'est au Brésil où il y a la plus importante communauté palestinienne en dehors de Palestine.
Absolument, et c'est une vieille histoire. Et alors, il y a sans doute plus de... Historiquement, ça remonte à assez longtemps. Peu de gens savent effectivement qu'il y a eu deux présidents en Amérique du Sud et deux premiers ministres qui étaient d'origine palestinienne. Et d'ailleurs, le livre de Daoud Abdullah vient d'être traduit au Brésil, en portugais, et il est en train d'être traduit d'ailleurs à Gaza en arabe, ce qui montre bien que le Hamas fait bien le sien, le contenu de ce livre, qui décrit bien sa politique étrangère.
Est-ce que vous souhaitez mentionner d'autres relations du Hamas avec d'autres pays, peut-être le Qatar? Il y a une relation très... très ancienne entre le Qatar et le Hamas.
Alors là, c'est un vrai... On partirait pour un petit peu de temps, parler des relations du Hamas avec les pays du Golfe.
Oui.
Et ça, c'est un véritable problème, parce que ces pays du Golfe, je vous parlais tout à l'heure des pays issus de l'Empire ottoman, ce sont des pays qui ont un territoire, une culture propre, un passé, une population, vous voyez, qui ont les caractéristiques d'un État. On ne peut pas dire que les pays du Golfe vraiment les caractéristiques d'un État. Et donc, la position politique d'un des pays du Golfe, c'est quelque chose qui peut changer complètement lorsque le royaume, une succession apparaît. Donc, ce sont des appuis qui sont importants, parce que l'appui du Qatar est un appui financier absolument essentiel actuellement, notamment pour Gaza sous siège. Mais en même temps, c'est quelque chose de très, très fragile. Donc, c'est de ce côté-là.
Pourquoi fragile?
C'est fragile parce que ce sont des régimes qui sont fragiles. Ce sont on l'a vu au moment des printemps arabes, Bahreïn a failli tomber, etc. Ce sont des régimes où l'essentiel de la population travaillante vient de l'extérieur. L'affaire du Koweït, qui est bien décrite dans le livre de Daoud Abdullah, à partir du moment où Saddam Hussein a envahi le Koweït, l'OLP, Yasser Arafat, s'est mis du côté de Saddam Hussein. Et 400 000 Palestiniens, 200 000 dans un premier temps et puis 200 000 dans l'autre, ont été expulsés du Koweït. Et ce Koweït, eh bien, à l'époque, il y avait 600 000 Koweïtis et 450 000 Palestiniens. C'est-à-dire qu'il allait y avoir bientôt plus d'étrangers au Koweït que de natifs, si vous voulez. Donc ce sont des pays, là aussi, qui sont des pays qui ne tiennent que par la stabilité du pétrole et des armements. Ce n'est pas des pays... d'avenir pour un soutien politique.
Cette résolution du Hamas de ne pas se mêler des affaires des pays voisins,
oui.
À la différence de l'OLP, parce que l'OLP, il y a eu la Jordanie, il y a eu le Liban, il y a eu donc aussi le Koweït, hein, où l'OLP a essayé de s'implanter et a été chassé de Jordanie et du Liban pour ces raisons-là. La résolution du Hamas de ne pas justement jouer de rôle dans les pays où les Palestiniens se sont réfugiés. Est-ce que c'est une résolution qui a été prise après à l'expérience de ce qui s'était passé, ou alors que c'est intrinsèque au Hamas qui dit « non, nous, notre combat, c'est la libération de la Palestine et il est hors de question que nous intervenions dans les affaires des autres ».
Alors, si vous voulez, c'est des positions de principe qui sont extrêmement sages, que vous indiquez là, qui font partie des 5 points de la base de la politique étrangère. La non-intervention dans les affaires intérieures et le refus des alliances régionales. Refus des alliances régionales, je pense qu'en France et en Europe, c'est quelque chose qui teinte à nos oreilles. Hein, les alliances régionales qui nous emmènent là où nous ne voulons pas aller, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce qu'il faut, c'est se souvenir, il y a un chapitre entier qui est... consacré à ça, et pour ma part j'avais fait un bouquin d'ailleurs là-dessus, Marjezour, la vallée des fleurs, c'est-à-dire qu'au moment où se tramaient les accords d'Oslo, Yitzhak Rabin a déporté au Liban 400 leaders du Hamas. Ils ont passé une année.
C'est intéressant d'en parler un petit peu. C'était un chapitre très intéressant de livre d'Aoud
Abdullah. Et c'est à ce moment-là, au lieu de se dissoudre et dans le monde arabe, si j'ose dire, comme le comptait Yitzhak Rabin, ils sont restés sur place. Et donc, ils ont fait un brainstorming, pour le faire court, de presque une année. Et donc, c'est là que les principes se sont élaborés. Imaginez 400, la plupart étaient des intellectuels qui se trouvent sur place pendant un an. C'est le moment où le Hamas a accédé pour la première fois à la notoriété internationale, puisque cette expulsion était totalement illégale, condamnée en 24 heures par le Conseil de sécurité. Les micros se sont tendus, il n'y avait pas Internet. Ils ont fait un buzz avec cette affaire-là. Et donc, ils ont eu 9 mois pour réfléchir. Et c'est pour ça que les bases, la structure de base de leur politique étrangère est cohérente. Alors, bien entendu, quand il y a quelque chose, une politique cohérente, il y a toujours des moments où on est pris entre deux feux. Et ça, c'est l'affaire de la Syrie qui a été une catastrophe pour le mouvement, qui est en train de se tasser progressivement, mais qui a marqué vraiment un point très négatif dans l'histoire de la politique étrangère.
Christophe Oberlin, il ne reste que 2 minutes, malheureusement, passées en votre compagnie. Je rappelle que nous vous recevons ce soir à l'occasion de la publication aux éditions Éric Bonnier de ce livre de Daoud Abdullah que vous traduisez et que vous préfacez, Histoire de la politique étrangère du Hamas. J'aimerais vous poser une dernière question, ça sera la question de conclusion et qui correspond d'ailleurs à la conclusion de ce livre, hein, tel qu'elle est présentée dans l'épilogue « Succès, échec et défis face au futur », page 294, David Abdullah écrit « La Palestine sans plus une question centrale aux yeux de nombreux gouvernements de la région ». Est-ce que cela n'enterre pas pour de longues années à venir, malheureusement, la situation de la Palestine, que ce soit la Cisjordanie que Gaza ?
Alors là, je ne suis que le traducteur de ce livre. Hein. Donc, quand on traduit, on reproduit à l'idée identique, on essaye la pensée de l'auteur. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette conclusion, vous l'avez compris. Je crois au contraire que nous sommes dans une situation d'instabilité extrême et j'espère que de cette instabilité va sortir de la réflexion et au moins une trêve de longue durée.
Eh bien, ce seront les mots de la fin. Christophe Oberlin, merci beaucoup d'être venu ce soir avec nous en direct dans ce studio. Vous poursuivrez sans doute les échanges avec les auditeurs de Radio Courtoisie qui vous contacteront. Je remercie Virginie qui a assuré la technique de ces deux émissions. Marie-Hélène au standard qui a pris vos nombreux messages, chers auditeurs. Et merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas que Radio Courtoisie a besoin de vous. Très bon dimanche soir. À vous tous.
D'entendre le libre journal des amitiés françaises dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 25 juin 2023 de 18h à 21h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.